Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur 7D12D et c'est la webconférence qui va répondre à toutes les questions que vous avez eues par rapport aux dernières vidéos. Hein? Donc il y a une question d'Isabelle sur la loi d'attraction. Tu dis, je résume, qu'il suffira de vouloir et ce sera. Est-ce la même chose que la loi d'attraction qu'on utilise déjà? Alors, la loi d'attraction est une chose extraordinaire, puisque c'est comme ça que le monde fonctionne. Il y a la loi d'attraction, mais aussi celle de la résonance, celle de l'équilibre, donc il y a plusieurs lois. Alors généralement, tout le monde balance la même chose dans la loi de l'attraction, ils disent voilà, c'est la loi de l'attraction, mais il y a d'autres lois qui sont tout aussi importantes, mais que eux, ils ont tout mis en un. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, imagine que tu as tout simplement, dans ton principe, on va dire, d'attraction, un talkie-walkie, ou même mieux, enfin même mieux. T'as une boîte de conserve reliée à une autre boîte de conserve avec un fil tendu entre les deux. Voilà. Donc là, tu pratiques la loi de l'attraction comme ça. Ensuite, eh bien, à fur et à mesure que tu vas monter en fréquence, eh bien, on va te refiler un talkie-walkie. Donc là, tu vas avoir une portée nettement plus longue et le son va être meilleur. Donc la loi d'attraction va fonctionner encore mieux. Mais imagine qu'un jour, on te refile carrément un téléphone portable. Donc là, t'es plus à dire, attends, je cause, pendant que je cause, tu peux pas me causer, parce qu'il faut que j'arrête de causer, parce que vous connaissez le principe du talkie-walkie, il y en a qu'un qui parle à la fois. Donc là, hop, tu te retrouves avec carrément le téléphone portable. Alors là, la limite, bah, c'est ton forfait, comme on dit. Hein. Et ça change tout. C'est toujours la loi d'attraction, c'est toujours de la communication, c'est toujours une vibration qui passe d'un individu à l'autre, simplement, l'instrument ne sera absolument pas le même. Donc voilà, Isabelle. Plus tu vas monter en fréquence et plus tu vas changer de matos. Pourquoi? Parce que tout simplement ton corps sera à la hauteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une vulgaire boîte de conserve, pour ceux qui sont branchés déjà, hein, une boîte de conserve avec un fil. Quand tu vas passer au talkie-walkie, tu vas déjà sentir la nuance. Mais quand tu passeras, on va dire, au téléphone portable, tu sentiras que c'est autre chose. Hein, que tu pourras demander des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu fais avec une boîte de conserve. Hmm? Voilà la différence. Une question de Grégo. Un esprit, hein, c'est concernant le processus d'incarnation. Un esprit passe par plusieurs étapes dans son chemin de vie et dans un certain ordre. Il passe du minéral à végétal, animal, etc. Donc, si je suis ta logique, les planètes, le soleil et galaxies ont déjà été humains ou à l'état de bipède. Et si c'est le cas, vu qu'on est dans un éternel présent, est-ce qu'ils le vivent actuellement dans une autre dimension? Pourrais-tu, par la même occasion, m'expliquer que devient un esprit ayant dépassé le stade de Christ, même si cela va au-delà de ma compréhension? Alors, déjà, quand il y a une évolution par rapport, on va dire, à l'aspect minéral, végétal, etc., c'est par rapport à un système solaire, c'est par rapport à un esprit directeur qui dit « je viens jouer dans un jeu ». Mais pour que ce jeu existe, il faut qu'il y ait déjà une galaxie. Donc, il y a, à chaque fois qu'il y a une création d'une galaxie, il y a déjà un soleil central. Et ce soleil central va petit à petit, au fil du temps, dérouler ses branches, hein, c'est-à-dire voir les multiples combinaisons qui peut expérimenter, entre guillemets, par rapport au thème qu'on lui a refilé. Et donc c'est comme ça que petit à petit, les systèmes solaires vont se créer. Mais pour que ces systèmes solaires se créent, il faut qu'il y ait des soleils. Or, qu'est-ce qu'un soleil? C'est quand même, avant tout, un esprit. Donc, je résume. Pour que une galaxie naisse, il faut qu'il y ait une entité qui commence déjà à venir, et qui se disent, voilà, je vais incarner le nouveau jeu. Partant de là, il va y avoir un certain nombre d'autres entités qui vont lui donner des capacités. Hein, c'est-à-dire qu'on appelle ça les planificateurs, il va y avoir certaines ondes particulières, par exemple dans le style Michael, qui est le tissu qui va permettre, on va dire, à la moisissure de se développer sur le tissu. Parce que dites-vous bien que d'une certaine manière, la matière c'est comme une moisissure, ça se développe. Et puis après, quand il y aura un soleil, il faudra quand même mettre des planètes. Et donc chaque planète a aussi un esprit. Donc, on voit que c'est comme un arbre qui n'arrête pas de grandir. Et si tu regardes bien, l'arbre vit son instant présent. Or, ce qui peut te paraître incompréhensible, c'est que ce présent, Il vit son présent à chaque instant, et pourtant, à chaque instant, il est en expansion. Parce qu'à chaque instant, il y a des feuilles qui naissent. Et à chaque fois qu'il y a des feuilles qui naissent, ça fait grandir les branches. Et puis, à chaque fois qu'il y a des branches qui grossissent, et bien, ça fait donner de nouveaux bourgeons, etc., etc. Et donc, il y a une croissance infinie. Alors, nous, par rapport à la matière, on a l'impression que ça sera fini. Mais ça ne l'est pas quand c'est, on va dire, virtuel. Comprends bien que nous sommes dans une boucle. Et comme dans toute boucle, on revient toujours au départ. Et en fait, il n'y a rien qui bouge. Simplement, on n'est pas sur le même point du périmètre. C'est-à-dire, on démarre, on fait le cercle, on fait tout le tour, et on revient. Et on démarre, et on continue, et on revient. Mais quand tu es au milieu, tu es toujours dans l'instant présent, tu regardes, mais il y a une chronologie qui se fait quand même. C'est-à-dire que la galaxie est bien née. Le système solaire est bien né. La Terre est née, et nous aussi. Mais il y a eu un ordre. Et ça, c'est simplement la périphérie. Mais tout se fait dans l'instant présent. C'est-à-dire que, je vous rappelle, le temps n'existe pas. Donc, vous pouvez regarder, en tant qu'esprit, n'importe quel endroit du cercle. Vous êtes toujours dans votre instant présent. Mais vous voyez des stades évolutifs différents. Mais vous êtes dans votre instant présent. Et donc, normalement, eh bien, la prochaine vidéo est là pour vous expliquer ça d'une manière, on va dire, imagée. Hein? Voilà. Alors, donc, deuxième question, que devient un esprit ayant dépassé le stade de Christ? Dis-toi bien que quand tu viens jouer dans un jeu en tant qu'esprit directeur, eh bien, tu pénètres la galaxie et tu viens dans un soleil. Ok. Et ça veut dire que quand tu viens, tu es un être cristallin possédant ses 24 dimensions et que tu es en totale unité avec toi. Et à fur et à mesure que tu vas descendre vers la densité, eh bien, tu vas, comment dire, laisser des parties de toi-même. Donc, il y a la partie de toi-même qui est en 23-24, en 17-18, enfin, dans toutes les densités, il y a une partie de toi. Et donc, c'est pour ça que quand on descend suffisamment bas, eh bien, on a l'impression qu'après, il va falloir remonter. Hein? C'est-à-dire que quand tu arrives dans l'esprit minéral, après tu te dis, ben maintenant, que je suis arrivé dans le niveau de dimension le plus bas possible de la galaxie, qui est la matière à l'état la plus dense, eh bien maintenant, il faut faire chemin inverse. Donc, c'est comme un cercle. Il y a un début, tu es tout en haut, par exemple, puis tu vas descendre dans la matière, tu arrives tout en bas du cercle, puis tu te dis, ben maintenant, ben, il n'y a plus qu'à remonter. Et quel est l'objectif? Bah, c'est simplement que tu acquières de l'expérience par rapport à ce jeu. Et donc, quand tu seras revenu, on va dire, à la 24e dimension, tu sors du jeu, puisque tu auras fait le tour du jeu. Ok? Alors, l'esprit, on va dire, christique, hein, c'est-à-dire que quand on arrive à l'état de Christ, dis-toi bien que tu es arrivé au 3 quarts, hein, on va dire 9h. C'est-à-dire que tu es parti à midi, on va dire 0h, hein, bah, minuit. Et puis, tu es descendu dans la matière, dans la matière, dans la matière. Et puis, on est arrivé à 6 heures. Et à 6 heures, tu dis, voilà, ça y est, je suis dans le minéral total. Ok, d'accord. Maintenant, du minéral, je remonte. Et tu remontes, et tu remontes, et tu remontes. Et quand tu arrives, on va dire, à 9 heures, ça veut dire que tu es Christ. En clair, ça veut dire que tu es arrivé au... Enfin, tu as dépassé le stade du soleil. C'est-à-dire que tu as reconnecté tes 12 premières dimensions. Mais il t'en reste 12 autres. Donc, tu continues ton chemin. Donc jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais parlé de cet aspect de qu'est-ce qu'il y a après l'état christique, pour la simple et bonne raison, c'est que personne ne l'a fait. On a déjà quand même, depuis que l'humanité existe, réussi à, enfin depuis, on va dire, l'Atlantide, enfin la destruction de l'Atlantide, il n'y a qu'un seul individu qui a réussi à être Christ. Donc, bon, c'est pas mal, tu vas me dire, mais bon... il va falloir qu'on devienne tous, de toute façon, Christ, tôt ou tard. C'est qu'une histoire de temps. Alors, après, bah, forcément, quand il y aura 10, 12, 15, 20, 1000 Christ, bah, il y en aura qui vont pousser le bouchon un peu plus loin. Et ils pousseront le bouchon, jusqu'à temps que il y en ait, enfin, pour être plus précis, non pas un, mais deux, car je vous rappelle que pour être Christ, il faut être deux. Eh bien, quand si ces deux arrivent à la 24e dimension, à ce moment-là, ça veut dire que le jeu est terminé. Puisque on va dire, un double esprit, enfin, un esprit incarné dans deux corps complémentaires, a réussi à faire le tour du cercle complètement, c'est-à-dire à revenir à tout en haut du cercle. Et donc, quand l'esprit en arrive à ce niveau-là, eh bien, il va pouvoir repartir dans un autre jeu. Mais dans ce cas-là, au lieu que ça soit simplement un élève qui vient descendre dans la matière, il sera probablement, on va dire, un soleil central, c'est-à-dire quelqu'un qui sera à la base d'une galaxie. Voilà. Et donc, il y aura un certain nombre d'entités qui viendront, qui vont lui dire, bah, puisque maintenant t'es promu en tant que soleil central, eh bien, voyons ce que tu peux faire. Mais bon, je pense qu'avant d'être un soleil central, on deviendra simplement un soleil planétaire. Hein, j'y vais un peu vite en besogne, mais une fois que tu as terminé le jeu, ça sera certainement un soleil planétaire. Donc tu apprendras à gérer des planètes qui gèrent des humanités. Et quand tu auras réussi à transcender complètement cet état de soleil, bah, tu viendras peut-être probablement un soleil central. Et donc si tu regardes par rapport à un arbre, c'est la même chose. Au bout d'une branche, t'as une feuille. Enfin, t'as une feuille. Voilà, t'as un truc. Mais si tu reviens 20 ans plus tard, à l'endroit où il y avait cette petite branche, enfin, cette petite branche, cette branchiole, maintenant, il y a une branche qui fait 30 cm de diamètre. Et donc, cette branche de 30 cm de diamètre, ben, c'est toujours la même branche. Simplement, comme dirait l'autre, elle a pris de l'expérience, et puis derrière cette branche, eh bien, elle continue, et il y a des centaines de petites branches qui sortent d'elle, etc. Et c'est pour ça que, on va dire, l'univers est toujours en expansion, dans le sens de l'expérimentation. Voilà. Alors, José, tu disais que grand nombre parmi nous allait devenir soleil et pas individu dans le nouveau jeu. Alors dis-moi Laurent, que fait un soleil? Quel est son apport, son statut, son service et ses fonctions et comment il poursuit son apprentissage? Détient-il certaines capacités d'ubiquité lui aussi? Et qu'arrive-t-il au soleil de cet univers maintenant que les portes s'ouvrent sur d'autres super-univers? L'ensemble des soleils et des planètes ont-ils droit à l'ascension aussi? Oui. Alors maintenant, bon, on va reprendre tout au début. L'entité de notre soleil planétaire s'appelle Hélios et Vesta, donc c'est un couple. C'est un couple qui a donc largement dépassé l'état christique, hein, vous pouvez le comprendre, et ils sont là pour effectivement avoir une petite famille qu'on appelle les planètes. Donc, commencez déjà à gérer 10 planètes, et on va déjà voir comment vous allez vous y prendre, parce que je vous rappelle qu'un soleil, c'est une idée à expérimenter dans la matière. Un soleil, une idée. Donc, il a une idée, on lui a dit, voilà. Donc, ici, Hélios et Vesta savaient que nous allions, particulièrement dans ce système solaire, expérimenter l'involution, mais dans une profondeur qui n'a jamais été expérimentée. C'est-à-dire loin. Et donc, c'est ça leur job. Donc, concrètement parlant, ils ont pour objectif de maintenir une certaine forme d'énergie et d'information. Il faut savoir que pour pouvoir œuvrer dans cette matière, eh bien, le soleil, on va dire, accueille les esprits directeurs qui sont dans les soleils. Et ces esprits directeurs qui sont dans le soleil sont une population à gérer. Et cette population va envoyer sur différentes planètes et dans plusieurs corps à la fois, des particules d'esprit, des étincelles d'esprit, c'est-à-dire des parties d'eux-mêmes qu'ils vont transplanter dans un véhicule qui va expérimenter la matière. Donc dis-toi bien que Hélios et Vesta, donc un soleil, ils sont là pour gérer la totalité des entrants et des sortants des esprits directeurs, tout en maintenant, on va dire, l'environnement adéquat, c'est-à-dire le système planétaire, qui, je te le rappelle, correspond à 12 dimensions. C'est-à-dire tout ce qui correspond à notre corps de manifestation. Donc, il a du boulot. Donc, Hélios et Vesta, ils ont du boulot. Hein. Hélios et Vesta, c'est comme un individu, il est fabriqué de milliards de cellules, et chaque esprit directeur est une cellule. Donc, il a aussi, Hélios et Vesta ont donc, on va dire, comment dire, une mission, d'une certaine manière, c'est d'expérimenter un truc et de donner tout l'environnement pour que cette expérimentation puisse se faire. Donc, comme nous sommes dans les lois de l'un, ça veut dire que tous les esprits directeurs qui viennent, c'est comme des armées, ils font un, et ils agissent sur une seule bannière, qui est celle du soleil. C'est le général en chef. Alors après, qu'ils viennent de telle constellation, telle constellation, telle constellation, c'est bien. Hein, ça, j'ai déjà décrit ça dans mes conférences. Eh bien, il y a plein, parce que chaque constellation a ses particularités, et comme dans une armée, hein. T'as l'armée de terre, t'as l'armée de l'air, t'as la marine, t'as... Voilà. Et donc, on peut dire que Hélios et Vesta sont les chefs de tout cela. Et c'est pour ça que Papa Soleil, comme on dit, eh bien, envoie les informations et les ordres pour que tout se déroule du mieux possible. Et donc, forcément, il est en relation avec, on va dire, ses principaux généraux qui sont ni plus ni moins les planètes. Donc un général va claquer des talons quand le chef d'État va lui dire faut faire ça. Eh bien, c'est ce que fait Maman, d'une certaine manière, hein, Maman Antiagaya, elle dit, bah tiens, je reçois les informations de Papa Soleil, il y a ça à faire, donc j'envoie la sauce. Donc, on va dire, Maman Général ou Antiagaya va envoyer les troupes en fonction de ce que Papa Soleil va dire de ce qu'il faut faire. Et Papa Soleil, en même temps, enverra aussi de son côté, on va dire, les informations, puisque nous sommes, comme vous le savez, toujours arrosés par le Soleil, parce que si le Soleil n'était pas là, le système planétaire ne serait pas là. Donc, il y a l'aspect masculin et féminin, tout simplement. Hein, une polarité. Voyez que c'est pour ça que là, je vois les frères solaires, on va dire, il n'y a pas que les frères solaires, hein, les frères atomiques, etc. Mais vous allez voir que tout ça, c'est une grande famille, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez découvrir que c'est parfaitement ordonné, que c'est nickel chrome, et que c'est d'une simplicité à faire que tous les scientifiques et les spirituels arrêtent de dire des conneries, quoi. Voilà, donc, il continue son apprentissage. Détient-il certaines capacités d'ubiquité? Ça, faudra lui demander, hein. Moi, je n'ai pas été encore leur demander. J'avouerai que je m'en fous complètement, mais il faut savoir que tout ce qui se passe à un endroit a forcément une répercussion dans une autre. Donc, pour moi, effectivement, Hélios Vesta doivent avoir la possibilité de pouvoir aller se balader sur d'autres galaxies, enfin d'autres systèmes solaires, on va dire, pour aller voir ce qui se passe et comment ça se passe, pour bien sûr acquérir une certaine expérience. Et donc, qu'arrive-t-il au soleil de cet univers? Ben, dis-toi bien que ce sont, tous ces soleils sont, comme je dirais, des chefs d'État, et ces chefs d'État, ils obéissent tous, on va dire, à l'autorité suprême, c'est-à-dire le soleil central. C'est-à-dire le soleil central de la galaxie, qui lui-même suit, les commandements qu'il reçoit de l'étage qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire du super-univers. Donc, tout ça, c'est hiérarchique, et, c'est ça qu'il faut comprendre. Et que cette hiérarchie se retrouve aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Je vois une question de Bruno. Oui, et Maman la Terre, elle est avec qui, elle? Avec qui quoi? C'est comme si je te demandais est-ce que ton bras droit est avec ton bras gauche. C'est un ensemble. Donc, s'il y a un soleil, il n'y a pas de planète, le soleil ne sert à rien. Donc, les planètes ne sont que l'extension féminine du Soleil. Il n'y a pas à être avec qui ou avec quoi. Elle est le Soleil, d'une certaine manière. Je viens de te répondre, là, Bruno. D'accord. Les planètes, les entités des planètes, sont des entités, bien sûr, qui ont leur propre... on va dire autonomie, mais qui sont en relation directe avec leur chef. Or, Maman ou Antiagaya est en accord total avec Vesta. Hélios rayonne de l'extérieur et Vesta dit à Maman ou Antia comment il faut jouer. Voilà. Donc, Bon, de toute façon, j'ai pas encore annoncé la couleur parce que c'est encore un peu trop tôt, mais il va y avoir quelques innovations parce que je commence un petit peu à bloquer par la méthode que j'utilise actuellement pour, on va dire, vous donner l'info. Parce que Word c'est sympa, mais arrive un moment, il y a des limites. Et devant, il y a quelques résumés que je dois faire et j'ai, on va dire, de plus en plus de difficultés à faire rentrer dans un cadre simple des choses qui font appel à beaucoup, on va dire, de dessins. Donc, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, mais c'est en cours, hein. Ça fait partie de mes activités, c'est en cours, et je pense que, espérons que vous verrez ça ce mois-ci. Je vous dis pas maintenant parce que j'ai pas encore tous les éléments reçus à la maison, mais on pourrait raisonnablement espérer qu'à d'ici la fin février, la nouvelle méthode pour vous décrire des choses plus sympathiques arrive. Mais bon, chaque chose en son temps, je vous en reparlerai. Où j'en étais? Voilà, une question de José. Tu disais que nous sommes plusieurs parties de nous qui sommes venus expérimenter jusqu'à 8 individus afin d'acquérir un maximum d'expérience. À quelle phase de l'évolution est prévue cette réunification complète avec nous-mêmes? Est-ce à l'étape du Christ ou est-ce justement quand l'absolu nous trouve? Parce que finalement, tous se sont retrouvés soi-même en nous-mêmes. Bref, c'est hypothétique, mais je m'interroge. Alors, il faut comprendre que il va y avoir des réunifications. Effectivement, le simple fait déjà d'être Christ veut dire que tu as une totale maîtrise de ton corps de manifestation, ce qui veut dire que tu as une totale maîtrise, enfin que tu es en connexion avec toutes les parties de toi-même qui appartiennent à ce jeu. Donc, enfin à ce jeu, par rapport à l'humanité, on va dire. Hein? Parce que l'humanité, c'est les 12 premières dimensions, qui sont reliées donc au Soleil, Hélios et Vesta. Donc, quand on devient Christ, c'est qu'on a en fait, était un peu plus loin, dans la 13e dimension, pour pouvoir unifier les 12. C'est pour ça que c'est 12 plus 1. Donc, quand on a unifié les 12 plus une dimension, eh bien, à ce moment-là, nous sommes Christ. On est d'accord. Et comme tu es Christ, eh bien, ça veut dire que tu peux voir toutes tes vies antérieures, toutes tes incarnations, tu peux les regarder en face, et tu peux donc t'amuser, entre guillemets, à changer ce que tu veux dans ce système planétaire. Rien que ça. Oui, mais je vous expliquerai tout ça en plus en détail à fur et à mesure qu'on avancera. N'allons pas plus vite. Pour l'instant, c'est comme si on voulait parler comment fonctionne une soucoupe volante alors qu'on n'est déjà pas foutu de faire voler un avion à Mach 20. Alors arrêtons quoi. Ça sert à rien, ça c'est du mental. Hein. Donc il faut savoir que quand tu dis voilà. Est-ce l'étape de Christ ou est-ce justement quand l'absolu nous trouve? On le verra que l'absolu, comme c'est malheureusement un peu bisounours, disons que ça a été transformé en bisounours, l'absolu, si tu reprends mes schémas, tu verras, c'est globalement à partir quand tu arrives à la 18e dimension, c'est l'absolu qui tombe dessus. C'est pas toi qui va le chercher. Mais je viens de dire que Chris, faut déjà être dans la 13e, après faut arriver jusqu'à la 18e. Et après, bon, bah quand l'autre il vient te chercher, tu dis ouais, d'accord, il viendra te chercher. Mais n'empêche qu'il va falloir que quand même t'ailles jusqu'à la 24e. Donc c'est pour cela que les bribes, on va dire, d'absolu que certains individus peuvent ressentir sont des bribes, mais ne sont absolument pas l'aboutissement. Ça veut dire que tout simplement, il y a eu un contact très fugace avec une partie de soi-même qui est dans la galaxie et qui, bien sûr, est dans cette dimension de l'absolu. Parce que, d'une certaine manière, il a bien fallu qu'on passe par là-bas pour arriver, on va dire, dans ce corps de matière. Donc, nous avons bien une partie de nous-mêmes qui touche à l'absolu. Et c'est pour ça que cette partie est très importante, puisque via la loi, on va dire, de l'équilibre, eh bien, tout ce que tu fais, par exemple en 1D, aura forcément une répercussion sur la 24D. Tout ce que tu fais en 3D aura une répercussion sur la 21D ou 22D. C'est-à-dire, c'est un équilibre, puisque ton esprit directeur, il est au milieu. Et donc, il y a la balance qui, je vous rappelle, du grand soi qui est le féminin d'un côté, et du petit soi, qui est le masculin, qui est l'incarnation. Donc quand tu es tout ce que tu fais dans tes 12 premiers corps, dans ton incarnation physique, matérielle, masculine, eh bien, il y a une répercussion automatique sur ta partie féminine. En clair, plus tu descends dans la matière, plus tu vas te séparer de toi, enfin de l'univers, eh bien, plus l'autre partie doit faire tout pour rééquilibrer. Et donc, c'est pour cela que cette expérience d'involution est très importante, parce que plus nous allons loin dans la séparation, et plus, en fait, de l'autre côté, nous allons dans les sommets. C'est-à-dire, plus on va dans les profondeurs, et plus on va dans les sommets de ce qui n'a jamais été. Et donc, c'est pour ça que le grand écart, en termes de prise de conscience de ce que nous sommes, va être énorme. Parce que on nous a, par les programmes involuants, comme les religions, dit qu'on n'était rien du tout. Qu'on est des bouts de machin, qu'on n'est rien. Dans la réalité, nous sommes, en tant qu'esprit, parmi les plus puissants, entre guillemets, qui soient. Et c'est pour ça que le destin de Maman Orantia Gaïa est exceptionnel et qu'il y a le cordon des liens. Si ce n'était pas aussi exceptionnel, le cordon des liens, ben il ne serait pas sur Maman Orantia. Il serait sur une autre planète, Sirius, machin, enfin ailleurs, mais il ne serait pas là. Donc, c'est ce que je dis depuis quand même pas mal d'années, les gens qui sont incarnés ici et maintenant sur cette planète, enfin ici et maintenant de tout temps, de l'expérience de l'humanité, sont pas des branquignoles. Ce sont des esprits directeurs extrêmement brillants. Et tellement brillants qu'ils ont réussi à se couper quasi pratiquement complètement de ce qu'ils sont. Donc ils ont vraiment, vraiment fait très 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 fort. Donc comme dirait l'autre, c'est très prometteur, excessivement prometteur. Ça veut dire qu'il y a apparemment pas mal de déchets. Mais comme vous savez que ce ne sont que l'esprit est immortel, vous dites, ben quoi, c'est des bagnoles. Et si tu veux faire du rallye, on va dire, de haut de gamme, en disant, non, mais moi, j'ai qu'une voiture et je vais arriver au top du top, non. C'est combien de bagnoles tu vas plier avant que tu deviennes le meilleur des meilleurs, enfin, sur la planète, en termes de conduite tout terrain, tout style, etc., quoi. T'auras cassé combien de voitures. Donc, l'expérience coûte beaucoup, on est d'accord. Mais le résultat est hors norme. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand les gens disent « Oui, mais pourquoi tant de souffrance pour toi, tant de ceci ?» Dis-toi bien que quand tu es au volant d'une bagnole de rallye et qu'on te demande ce qui n'a jamais été fait, c'est sûr que les amortisseurs s'accouinent. C'est sûr que les portières elles dégagent. C'est sûr qu'il va falloir des arceaux de sécurité parce que franchement, on est vraiment des kamikazes. Mais on a ça dans la peau et on est venu pour ça. Je dis pas qu'il faut suicider, pas du tout. Je dis tout simplement, c'est que il faut maintenir la bagnole en état de marche le mieux qu'on peut, mais pas en étant assis devant la télé, en bouffant des pizzas et en regardant les matchs de foot. Hein. C'est pas comme ça que l'évolution se fait véritablement. On est là vraiment pour faire une conduite intérieure et de prendre de l'expérience. Et ça, c'est complètement dingue. Vous imaginez qu'on est des pauvres rallyman, comme dirait l'autre, hein. On fait un Dakar, mais on n'a même pas de GPS, on n'a même pas la carte. On sait même pas comment, enfin la voiture, on se dit, bah tiens, on a l'autonomie pour peut-être arriver à un trou d'eau, mais on ne sait pas si on va le trouver. On y va complètement au pif. On est complètement, quand on dit qu'on est coupé, déconnecté, d'une certaine manière de la source, c'est vrai, nous, en tant que chauffeurs. Mais dites-vous bien que vu de là-haut, vous avez un gros numéro de plaqué sur le plafond de la voiture qui est peint, et vous êtes suivi. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'invisible voient exactement qui vous êtes. Ils voient la carrosserie, ils voient dans quel état vous êtes, mais ils voient aussi en même temps, et ça c'est l'aspect quantique, ils voient aussi en même temps toutes les bagnoles dans lesquelles vous avez roulé, et que vous êtes en train de rouler. Donc c'est pour eux c'est phénoménal, ils regardent, c'est nous les joueurs, donc ils observent, hein, ils regardent, et ils se disent, putain, celui-là, il a tout ôté, même les suspensions, il a même plus de roues, mais la bagnole avance encore. Il a inventé les rames, la voile, il a mis des skis, et elle avance encore, pourtant elle a plus de roues. Et c'est ça qui doit nous nous faire sourire parce que cette expérimentation est un jeu. C'est pas sérieux. On y va. Et dites-vous bien que quelle que soit l'emmerde que vous pouvez avoir en face de vous, prenez du recul et dites, hey, c'est un jeu. Ok ? Vous comprenez le truc, c'est pour ça que moi depuis que j'ai découvert que c'était un jeu et qu'on s'amuse, eh bien amusons-nous. Soyons créatifs, amusons-nous, allons-y. Mais n'allons pas délibérément dans le mur en disant « ouais, je m'en fous, je vais casser la caisse, je m'en fous ». Non. Et il y a un très grand respect pour la voiture, parce que c'est quand même un moment entier qui vous la donne, mais dites-vous bien que dans l'esprit, vous êtes là pour apprendre à conduire, mais d'une manière absolument impensable, on va dire, par rapport à tous les êtres de lumière qui nous regardent. Ils disent, putain, mais c'est pas possible. Ils y arrivent encore. Ils y arrivent encore. Donc, si je pouvais vous raconter les conversations qu'on a quelquefois avec certains êtres de lumière, vous seriez vraiment sur le cul. Mais bon, comme il y a encore beaucoup trop de critiques, beaucoup trop d'attaques, dès qu'on commence à sortir des chemins, je préfère garder ça pour moi et puis dire, voilà, on va être le Pékin moyen, on va suivre notre route, on va faire notre truc, on est tous égaux, on est d'accord, on est tous sur le chemin, on est d'accord. Mais croyez-moi que quand vous allez commencer à être au courant des potins, on va dire, de la galaxie, hein, je parle pas des potins du web, mais du potin de la galaxie, vous verrez que franchement, il y a de l'amour, mais de l'amour avec... ils aiment bien se chambrer les uns les autres, ils adorent les farces, ils adorent l'humour, ils adorent... En fait, ils sont rarement sérieux, en fait. Ils remplissent leur truc, enfin leur fonction, mais avec le sourire, quoi. Pour eux, le travail, ça n'existe pas, quoi. Ils disent, si je fous rien, je m'ennuie, enfin je m'ennuie... comme la nature n'aime pas ce qu'il faut rien, généralement ça va au recyclage. Donc ils disent non, moi j'ai envie de m'amuser, donc donnez-moi du boulot, en fait. Je veux être au service. Alors, donc imaginez que quand un préhumain commence à comprendre que il peut devenir le gardien d'un esprit cristallin qui n'est que lui-même, l'esprit cristallin, il est heureux parce que enfin il sert à quelque chose. Bien, alors, on va suivre, hein, on va continuer. Question de Sanson. Est-ce que la meilleure connaissance de nous-mêmes apporte des modifications dans le câblage d'origine? Et la prise de conscience renforce-t-elle le G du schéma que tu as présenté, hein? C'est concernant le Hitching et le SDH. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que une bagnole, tu es le chauffeur de la bagnole. D'accord? Et donc ta question, tu dis, est-ce que... si je prends connaissance du câblage de la bagnole, ça va changer le chauffeur. Dis-toi bien que ton aptitude à conduire va pouvoir s'améliorer. Mais une chose est claire, c'est que si on t'a mis un amortisseur pourri, t'auras toujours cet amortisseur pourri. Si tu as tel câblage, t'auras tel câblage. Alors, le mieux que tu puisses faire, c'est l'utiliser au mieux de ses capacités. Dites-vous bien que le câblage qui est dû par exemple donc au fameux Hitching, donc au SDH, est directement implanté dans votre corps à votre naissance. Donc si tu veux changer de câblage, il faut changer de corps. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Donc, on fait avec la voiture qu'on a. Simplement, dans, on va dire, 95 ou 98% des cas, eh bien, les gens ne savent même pas dans quelle bagnole ils roulent. Donc déjà, s'ils arrivent à découvrir la bagnole dans laquelle ils roulent, ils vont peut-être mieux utiliser la voiture. Et puis, à partir de là, quand ils vont mieux utiliser la voiture, ils pourront atteindre vers l'excellence, dans le sens qu'ils pourront aussi réparer la voiture pour la remettre dans l'état initial dans lequel elle était. Donc, l'état initial... c'est quand vous êtes arrivé et puis qu'il n'y avait rien qui était cassé encore. Donc là où les portières ont été, on va dire, froissées, tu les défroisses, on est d'accord. Mais la portière, tu ne changeras pas la forme de la portière. Enfin, je veux dire, si elle faisait 50 cm de haut, elle fera toujours 50 cm de haut. Elle ne fera pas 55. Voilà. Alors ensuite, Maintenant que cela est dit, c'est par rapport à votre cardiologie d'aujourd'hui. Or, quand vous allez passer dans le processus, on va dire, d'immortalité, eh bien, vous allez d'abord, et c'est ça le processus, d'abord commencer déjà à arrêter de casser la bagnole, c'est-à-dire puis qu'elle vieillisse, déjà, c'est-à-dire qu'elle rouille. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Arrêter le processus de vieillissement, c'est quasiment mettre de l'anti-rouille partout. Donc, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, eh bien, quand votre corps va rajeunir, c'est que les matériaux sont en train de se retaper pour revenir à ce qu'ils étaient à l'origine. Bah, c'est quand même pas mal. Vous allez vous retrouver entre 20 et 25 ans, quel que soit l'âge civil que vous aurez, vous serez jeune et fringant. Ça, c'est bien. Et puis ensuite, eh bien, ça sera seulement quand vous passerez à l'état christique, c'est-à-dire dans votre corps de résurrection, que vous pourrez changer de corps. Parce que là, vous aurez le schéma, effectivement, de votre corps de cette vie. Mais comme vous vivez toutes les autres vies aussi en même temps dans vos incarnations, ça veut dire que vous avez le schéma aussi de toutes les autres corps. En clair, si tu es Christ, alors tu dis, voilà, je suis, par exemple, on va prendre notre copain Jésus, il dit, voilà, j'étais pas blanc et ni pas aux yeux bleus, puisque bon, j'étais un juif. Donc j'avais les caractéristiques des gens de là-bas à l'époque, c'est-à-dire j'étais bronzé, j'avais certainement les yeux marrons, les yeux frisés, les cheveux frisés, hein, les yeux marrons, basanés, avec la morphologie, on va dire, excusez-moi, c'est pas péjoratif, d'un arabe, pas d'un maghrébin, voilà. Bien. Alors tu dis voilà, paf, je ressuscite. Alors qu'est-ce que tu vas faire déjà, surtout c'était son rôle de dire bah tu vas revenir dans la même image que tu avais, que les gens qui t'ont connu, parce que quand même l'objectif c'était de leur montrer que c'était possible. Donc il est revenu avec la même image, mais ce n'était plus un corps de matière, c'est-à-dire que ce n'était plus un corps de matière dans le sens où il avait la matière et les programmes quand il est né. Non, ça a été un corps transmuté, c'est-à-dire que ce n'est plus que des ondes qui localement se matérialise. Mais ce qu'il y a, c'est que quand ce corps se matérialise, il est parfait, non seulement dans sa représentation, mais au niveau de chaque atome. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus d'erreur génétique. Il n'y a plus aucune crasse, il n'y a plus rien du tout. Alors les gens, bien sûr, à l'extérieur, ne pouvaient rien voir. Mais s'ils avaient pu prendre le microscope, ils auraient vu qu'à ce moment-là, le moindre composant du Jésus ressuscité était d'une pureté totale. Pourquoi ? Totalement reconstruit, en termes de matière. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais Jésus, enfin l'entité, Sananda, elle a aussi eu des centaines, voire des milliers d'incarnations. Donc il a été forcément black, jaune, rouge, avec des caractéristiques différentes. Or, quand on devient Christ, on réaccède à la totalité de toutes ces incarnations. Donc ce qui veut dire que tu dis, tiens, je vais aller faire un tour du côté, par exemple, de l'Amérique du Nord, et bah oui, j'étais indien à une époque, bah je reprends le même corps. Simplement, il va reprendre le plan. Mais les éléments qui vont constituer seront absolument parfaits, purs. Donc il va réapparaître là-bas, en tant qu'indien. Et comme le non-temps existe, c'est-à-dire qu'en tant qu'indien, il va dire, bah je reviens. Et les gens ils vont se dire, ah là là, d'où il vient, d'où il sort celui-là, il rayonne comme pas deux, et on l'écoute parce qu'il est de grande sagesse. C'est simplement un Christ ressuscité, mais c'est toujours le même. Et puis, bah, s'il a envie aussi de dire, tiens, je vais aller causer à mon copain africain là-bas, en Guyane équatoriale, mais en Centrafrique quelconque, il sera black. Donc, parce que imaginez bien que, Si il était blond aux yeux bleus, fin et blanc comme un linge, c'est sûr qu'en plein Centrafrique, à une certaine époque où il n'y avait pas un blanc, il détonnerait un peu quand même. Hein. Non. Donc je pense que quand on atteint le stade de Christ, on est capable d'aller rechercher, on va dire, d'autres plans de bagnole qu'on a déjà utilisés, puisqu'on peut reconstruire tout, sans passer par le ventre d'une femme. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, une question d'Henri, je vois. Est-ce que le corps de résurrection correspond au corps d'êtreté ou au corps d'éternité? Ben, on pourrait dire oui. Effectivement, c'est-à-dire que ton corps d'éternité, c'est quoi? Ça veut dire ta capacité de pouvoir reconstruire n'importe quel corps, selon ce que tu as envie. Et donc, ceci ne peut être fait que si tu vibres. Or, la vibration s'appelle l'être-té. Quand tu es dans l'être-té, tu vibres. Donc, ça se fait, effectivement, après le corps de résurrection. Voilà. Bien, alors, une question de Bonnie. Concernant l'arbre de vie, la non-séphirote date, la connaissance, me semble-t-il, quand on la trouve sur le carré, cache le soleil. Serait-ce la technique des aveuglants pour nous masquer l'accès à notre intériorité en nous baladant dans le labyrinthe des archétypes et périgores stéréotypes? Alors, on va dire que ce fameux date, quand on la trouve sur le carré, cache le soleil. Cache pas le soleil, c'est-à-dire que si date est mis en pointillé derrière, c'est que veut dire que tout simplement, le soleil, celui qui est pris comme le soleil là au milieu, eh bien, en fait, il est éteint. Il est éteint. C'est seulement quand date s'allume qu'à ce moment-là, le soleil brille. Et c'est la différence entre un illuminé. Si je reprends l'analogie du chauffe-eau, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu regardes l'arbre de vie avec date en pointillé, tu dis, je regarde mon chauffe-eau, mais il n'y a pas de petite flamme. Et puis, quand date, on va dire, est enflammée, c'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, tu as reconnecté un certain niveau vibratoire, eh bien, la petite flamme, la veilleuse, s'allume. Donc, c'est pour ça qu'ils n'y trouvent pas de propriété particulière. Enfin, ils disent, date, c'est pas une séphirote. Non, c'est pas une séphirote. C'est tout simplement quelque chose qui existe, mais qui est le fruit de deux choses. Du gaz avec une étincelle. Mécaniquement, il n'y a rien qu'à changer dans le chauffe-eau, je vous signale. Un chauffe-eau qui n'a pas la petite veilleuse et qui est à l'arrêt, c'est toujours un chauffe-eau, il n'y a pas un atome qui manque. Simplement, il faut le gaz. Et il faut l'étincelle. Le gaz, eh bien, on va dire que ça va être, globalement, on va dire la 4D, c'est-à-dire la vibration du cœur. Et quand vous avez la vibration du cœur, à ce moment-là, eh bien, la petite étincelle... C'est l'étincelle de déclenchement qui fait que vous réalisez d'un seul coup quelque chose. C'est, paf, ça vous connecte. Et si il y a suffisamment de gaz qui arrive, eh bien à ce moment-là, petite flamme va rester allumée. Voilà. Et donc, quand quelqu'un a sa petite flamme allumée, obligatoirement, son arbre de vie, il va s'allumer quelque part, parce qu'il va y avoir une énergie qui va circuler. Et cette énergie, qu'on va appeler l'amour, en fait, c'est ni plus ni moins la chaleur. Et la chaleur, vous savez, c'est tout ce qui touche aussi à l'émotion. Donc, grosso modo, un chauffe-eau allumé, ça chauffe. Ça chauffe déjà, la veilleuse va chauffer. Donc déjà, on va être moins dans le mental. Rappelez-vous que le mental, c'est le froid. Donc, ça va chauffer. Et si, effectivement, il y a encore plus de gaz qui arrive et qu'on dépasse le stade de la sécurité, vous savez, tu as une sécurité d'une petite minute ou enfin un temps assez long, c'est-à-dire que l'individu est suffisamment persévérant à générer du gaz, eh bien, à ce moment-là, c'est la rampe de lancement, c'est la rampe de chauffage qui va s'allumer. Et quand la rampe de chauffage ça va s'allumer, c'est sûr que là, autant la petite flamme du chauffe-eau pouvait brûler et éventuellement chauffer quelque chose, autant, là, la rampe de chauffage va chauffer quasiment autant d'eau que vous voulez. Donc, si date ne s'allume pas, le reste ne sert absolument à rien. Donc, grosso modo, un individu qui arrive en 5D, c'est un individu qui a allumé, qui a déjà produit du gaz en 4D, déjà, qui a eu un éclair de compréhension suffisamment sérieux pour comprendre que l'invisible existe, etc., et qui va, à ce moment-là, allumer sa petite veilleuse. Et de la petite veilleuse, une fois que la petite veilleuse est allumée, et qu'il commence à perdurer, on va dire, dans le style 5D, c'est-à-dire que, comme il va de plus en plus souvent dans la 5D, arrive à un moment, il aura, on va dire, dépasser le stade de la sécurité. C'est-à-dire que c'est pas par accident qu'il y est. Et là, eh bien, on peut relâcher le bouton de la sécurité et la veilleuse reste allumée. quoi qu'il arrive. Donc là, quand la veilleuse est allumée en permanence et ne peut plus s'éteindre, ça veut dire que vous êtes en 4D+, et que pratiquement au seuil de la 5D, quoi. Et quand vous êtes dans la 5D, à ce moment-là, eh bien, ce qui va vous mener de la 5D, on va dire, à la 12D, en fait, tout ça, eh bien, c'est la rampe de chauffage. Donc, au départ, ça va chauffer de temps en temps, poum, poum, hop, ça va s'éteindre. Et puis, arrive un moment, votre rampe de lance de chauffage va se mettre à pouvoir fonctionner à 100%. Mais 100% pendant combien de temps? Pendant 30 secondes, 1 minute, 2 heures, 3 jours, une semaine d'affilée à chauffer. Imaginez les quantités d'eau. Donc c'est pour ça que plus un individu va augmenter, on va dire, non seulement sa fréquence, mais sa capacité à découvrir son corps de manifestation, donc ses 12 premières chakras, on va dire, hein, dimensions, hein, mais de la 5e à la 12e, c'est la totalité de la rampe de lancement qui va mettre plus ou moins en œuvre et aussi, on va dire, en durée. Donc, un individu qui a la totale maîtrise de son corps de manifestation, va tout simplement dire, bah ça y est, le chauffe-eau, je l'ai utilisé à fond, je peux l'utiliser à fond, j'en fais ce que je veux. Ça veut dire qu'il a une capacité de chauffage maximale. Voilà. Bon, c'est toujours des images. Hein. Une question de moi. Alors bon, c'est des pseudos, hein, c'est pas sympathique, mais bon, voilà. Je souhaiterais savoir ce que tu penses du tantrisme et de ses pratiques dans les écoles 3D. 3D dans le sens où certaines personnes organisent des rencontres entre célibataires, ils se tripotent et apprennent avec le ou la prof présent. Je trouve ça bizarre, comment ça pourrait être n'importe quel partenaire qui se présente dans ces organisations. Cela ne devrait pas plutôt être une personne choisie par notre soi supérieur et donc rendre obsolète toutes ces organisations ou écoles. Le vrai tantrisme, c'est ça. Et puis le tantrisme n'a rien à voir avec la matière physique, c'est touché par et avec l'esprit, non ? La rencontre serait plutôt intime, inutile donc de se rendre dans ces conférences, organisations, stages et plus. De chez soi, c'est carrément possible, non ? D'autant plus qu'il y a plus besoin d'une présence physique, mais uniquement de l'esprit réunifié. Bien, alors, le problème là-dedans, c'est qu'il y a confusion. Il y a confusion de plein de choses. Déjà, mettre une étiquette tantrisme, peu de gens comprennent ce que ça veut dire. Hein. Ils voient que le Kama Sutra avec bricolé avec qui on veut un peu à droite à gauche, et que peut-être qu'en frottant un silex contre un autre silex, il y aura une étincelle qui allumera le chauffe-eau. Donc il y a donc ceux qui se disent si on tape pas un silex contre un autre silex, bon on aura peut-être un peu de mal pour quand même faire enflammer la petite paille qu'on a mis à côté. On est d'accord. Donc il peut effectivement, il y a une première étape dans certains cas, c'est de dire si on comprend que c'est quelque chose qui serait intéressant d'essayer, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain, tu dis oui mais j'attends l'âme sœur à la maison et quand j'aurai l'âme sœur à la maison, peut-être qu'on pourra faire du tantrisme. Des fois, il faut quand même aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe. Donc, il y a des gens qui ne sont pas, on va dire, très doués, entre guillemets, pour attirer le sexe opposé et s'amuser à bricoler avec. Donc, il leur reste à aller dans des stages, dans des écoles, en disant, puisque déjà, naturellement, j'arrive pas à tirer quelqu'un, peut-être qu'en bricolant avec d'autres, ça va peut-être me donner une vision différente du monde. Et c'est vrai que ça peut être une marche pour certaines personnes. Elle n'est pas obligée que tout le monde y passe par là. Alors, je peux vous dire que j'ai jamais fait ce genre de choses, mais j'avais la capacité de pouvoir, on va dire, faire les beaux yeux et donc de connaître des personnes différentes. Donc, voilà. Mais le tantrisme est en soi, en fait, une énergie qui est, en fait, la plus puissante de toutes. Hein, c'est-à-dire que c'est utiliser, effectivement, l'énergie de la Terre. Donc, ça passe donc forcément par le corps. Et donc, le truc, c'est que si tu y vas avec ton corps, et uniquement ton corps, et que ta tête n'y participe pas, et encore moins ton cœur, il est clair que là, ça va pas marcher beaucoup. Ça va être de la copulation pure et dure et ça va rien faire. Ça sert à quoi de cogner des silex l'un contre l'autre si t'as pas du gaz qui va s'enflammer à côté? Donc faut du gaz. Le gaz, comme je l'ai dit, c'était la 4D, c'est le cœur, c'est l'émotion. Et il faut absolument qu'il y ait quand même une attirance. Et donc effectivement, quand il y a une attirance envers quelqu'un, on se sent vraiment attiré, on sent que ça brûle en nous. Il est clair que passer à l'acte physique est tout à fait, on va dire... il faut le faire. C'est tout, quoi. C'est parce que si tu cognes pas les silex entre eux, même si tu as du gaz, ben, il va pas s'enflammer. Donc, si tu as le gaz et les pierres de silex, c'est déjà pas mal. Mais ensuite, il faut la troisième chose. Et la troisième chose est bien sûr le moteur du ciel. C'est-à-dire, quelle est ta véritable intention? Parce que si tu arrives à allumer ton petit feu de paille, est-ce que c'est pour foutre le feu à la forêt ou pour cuire la pomme de terre que tu as trouvée? Donc, quelle est ton intention véritable? À quoi ça va te mener? Donc, dans ce que tu dis là, il y a trois éléments à prendre en compte. Un, le moteur de la Terre, c'est-à-dire le corps physique. C'est eux qui vont fabriquer l'étincelle par choc, on va dire, hein, par les chocs. Ensuite, eh bien, tu as l'étage de l'humain, hein, c'est-à-dire que là, bah, il faut qu'il y ait effectivement une attirance, une affinité, une résonance. Et là, ça fabrique le gaz. Donc, on appelle ça être amoureux, tout simplement. Et puis, être amoureux, c'est bien, mais généralement, c'est idiot et con si ça, si les deux personnes ne regardent pas dans la même direction. C'est-à-dire, elles se regardent dans les yeux l'une l'autre et se bouffent l'un l'autre. Si par contre, elles regardent un autre point, ensemble, avec ce feu dans le cœur, avec cette joie de bricoler au niveau du corps, eh bien, à ce moment-là, elles vont pouvoir diriger cette énergie vers le ciel. Voilà. Alors après, quand on regarde par rapport au ciel, eh bien, il y aura l'aspect, on va dire, involuant et évoluant. Parce que il y a des couples qui font un super tantrisme d'enfer, hein, je vais dire vraiment bien, et simplement, ils sont tournés vers le service à soi. C'est-à-dire que c'est pour eux. Donc ils vont utiliser l'accès à leur pouvoir pour s'enrichir. Puis bah, tu auras ceux qui vont faire la même chose, mais pour aider l'humanité. Donc devenir un maître ascensionné ou devenir Christ, parce que comme je vous dis, bon, maître ascensionné, vous êtes tout seul dans votre coin, Christ, c'est que vous êtes deux avec un partenaire, et bien devenir Christ, c'est tout simplement deux individus qui pratiquent le tantrisme, et qui, tout simplement, regardent dans la même direction et sont là pour apporter une fréquence à l'humanité. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai 70 balais, mon copain, ben, il est plus en forme hein, pour ça. Eh bien, dites-vous bien que... montez en fréquence et vous verrez. Parce que même à 70 balais, même si Papy Mougeot, il l'a plus bien verte, eh bien, c'est pas le problème. Parce que, en fait, je vous allais dire, c'est quand, s'il boit de l'encodé, qu'il est sur le chemin, qu'il t'aime, eh bien, il va arrêter le processus de vieillissement. Et après, son corps va rajeunir. T'inquiète pas, il va se rappeler que à quoi ça sert un mec. Et puis, c'est la même chose, bien sûr, maintenant, pour le poser par rapport à la dame. Hein. Donc, et rien n'est définitif. Nous sommes des joueurs et nous avons toutes les possibilités. Alors, à nous de jouer. Alors, aussi, là encore, autre chose, n'essayez pas de dire, oui, il faut que je trouve l'âme sœur. Non. Quand vous serez arrivé à une certaine fréquence, vous imaginez que, tout simplement, hein, comme je parlais tout à l'heure des plongeurs, eh bien, il est clair que si vous nagez à moins 150 mètres, vous allez avoir du mal à rencontrer la petite culotte de celle qui est à 50 mètres, en profondeur. D'accord? Donc, clair, ce sont des paliers. Et donc, si vous êtes à 150 mètres et vous remontez à 100 mètres, ben vous verrez la couleur des petites culottes à 100 mètres. Et puis, si vous remontez à 50 mètres, ben vous verrez, voilà. C'est-à-dire que si, à la profondeur où vous êtes, vous n'arrivez pas à trouver l'âme sœur, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas, pour l'instant, à la bonne profondeur pour trouver quelqu'un qui est véritablement dans la même fréquence que vous. C'est-à-dire prêt à regarder dans la même direction. Donc, les rencontres se feront tôt ou tard. Parce que de toute façon, l'objectif, c'est que chaque personne sur cette planète devienne Christ. Donc, moi, mes guides m'ont dit, monte en fréquence, les choses se font. Tu montes en fréquence, tu bois ton encodé, tu fais tes exercices, tu fais tes machins, tu causes avec les gens de la visite, tu fais tes trucs, tu suis ton chemin. Et de toute façon, il y aura tôt ou tard quelqu'un qui viendra. Et il viendra. Pourquoi ? Parce que d'abord, un, vous serez un lampadaire, on est d'accord, mais deux, lui-même sera aussi un lampadaire et se dira, ah, il y a au moins quelqu'un sur qui je vais pouvoir rentrer en résonance, c'est-à-dire puisque nous avons la même fréquence, nos énergies vont s'ajouter l'une à l'autre. Parce que bien sûr, quand vous êtes un lampadaire, vous allez attirer aussi tous ceux qui ne sont pas à la même fréquence que vous et qui ont envie de vous sucer. Enfin, l'énergie, hein, qui veulent profiter de votre lumière, mais qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Mais il se peut que aussi dans le temps, il y en ait une personne qui corresponde à cette possibilité-là. Donc, il faut rester ouvert et regarder ce qui se passe. De toute façon, il y a quelque chose qui vous attend, car, je vous le rappelle, vous êtes le créateur de votre monde. Donc, changez votre monde dedans, c'est-à-dire changez ma façon de regarder le monde, et vous verrez que vous allez voir des choses que vous ne voyez pas avant.